Bonjour, ici Eugénie Francoeur, coach en santé globale, ex-journaliste et curieuse de tout ce qui parle et réfléchit à la santé, les façons de mieux vivre dans son corps, dans sa tête et dans son cœur. Mieux vivre aussi avec soi-même et avec les autres. Je vous souhaite la bienvenue sur le balado « Ma santé pour la vie ». Je vous propose des rencontres intimes, surprenantes et éclairantes avec des personnes qui pensent la santé autrement. Ce que je souhaite à travers ces balados, c'est de vous partager ce qui m'allume en espérant que ça puisse vous inspirer, vous faire du bien à vous ou peut-être à un proche. Je crois profondément qu'il est possible de vieillir en restant actif et alerte. J'espère que mon enthousiasme et ma croyance se rendront jusqu'à vous. Je vous invite à vous installer confortablement, à écouter et à vous laisser surprendre. Allô tout le monde, je vous souhaite la bienvenue à ce nouvel épisode du balado « Ma santé pour la vie ». Je suis contente de vous retrouver. Dans mes coachings santé avec mes clientes et mes clients, on parle souvent de nutrition et d'alimentation. Ça va de soi parce que la nourriture est au cœur du quotidien de tout le monde et aussi parce que c'est l'une des choses le plus à notre portée pour prendre soin de sa santé. La bouffe, c'est aussi l'un de mes dadas. J'aime cuisiner pour ma famille, mes amis et pour moi. J'adore aller au marché, choisir des aliments frais, essayer de nouvelles saveurs ou me réconforter avec celles que je connais déjà. Puis de temps en temps, bien, je vais au resto. Quand je veux vraiment me faire plaisir, je vais au Rose Ross sur la rue Masson à Montréal. C'était d'ailleurs le sujet de mon tout premier article de blog en 2019. En cette fin d'année 2022, j'ai eu envie de vous faire le cadeau d'une rencontre avec Sébastien Courville, l'un des deux chefs propriétaires passionnés du Rose Ross. Chaque fois que je vais au Rose Ross, je m'assois au bar et je passe de longues heures à écouter Sébastien nous parler de son amour de la cuisine et de la nourriture. Ça prend toutes sortes de formes, toutes sortes de directions. Sa curiosité et sa passion sont vraiment contagieuses. Ces discussions avec Sébastien et aussi avec Myriam en fin de soirée, lorsqu'elle se joint à nous, quand ça se calme en cuisine, ça fait vraiment partie de l'expérience Rose Ross. Myriam Pelletier, c'est l'autre chef propriétaire du Rose Ross. Dans notre échange, Sébastien nous parle de son amour de la cuisine et de Myriam, de sa curiosité pour tout ce qui touche à la nourriture, de notre responsabilité individuelle et collective dans nos choix alimentaires et de bien d'autres choses. Bonne écoute! Alors, on est au Rose Ross, dimanche 27 novembre 2022. 5h-5. Normalement, le Rose Ross est fermé le dimanche.
Oui. Mais là, ça faisait longtemps. Il est vraiment fermé. C'est juste que moi, je suis ici encore une fois.
Oui, bien, c'est ça. Ça fait longtemps que je voulais faire un balado avec toi. Puis là, ben, à la dernière minute, tu me dis OK, viens-t'en, je suis ici. Qu'est-ce que tu fais au restaurant dimanche?
Bien, là, je prépare un civet de chevreuil, sauce poivrade, pour. Pour notre prochain party de staff, la semaine prochaine, à la campagne. Donc, on va être un petit peu de chasse avec des bons vins, puis on enjoyer la vie, montrer, vivre nous aussi l'expérience qu'on promeut.
Ça doit être bon, les parties de staff chez Rose Ross?
Ben maintenant, oui. On a plus les moyens, donc on se fait plaisir, là. Voilà.
Sébastien, ça vient d'où et de quand ta passion pour la cuisine, la nourriture et, cet univers-là?
D'aussi loin que je me souviens, je suis une personne vraiment gourmande. Puis gourmande de toutes les façons. On pourrait dire de moi que je suis un excessif, là. Mais moi, je suis bien là-dedans.
Mais gourmand, mais surtout gourmet, parce que t'es pas gourmand genre McDonald's, là.
Ah, ben j'aime aussi le fast-food, malheureusement. Mais je vais pas au McDo, ça non, mais dans un fast-food peut-être artisanal, oui. J'ai pas de leçon de santé à donner à personne, mais je suis quand même focussé sur le plaisir, donc ça, je peux en parler.
OK. Donc, quand est-ce que tu as commencé à cuisiner, à mettre des aliments en place, à essayer des choses?
Quand même assez jeune, peut-être vers 10 ans, à la maison, là, simplement en famille, faire le souper. Puis après ça, un peu plus tard, vers l'âge de 14 ans, l'histoire, c'est que je voulais une mobylette. Mon père m'a dit oui, on va regarder ça. Le lendemain, il venait de me voir et dit, je t'ai trouvé un travail, tu vas pouvoir t'acheter une mobylette. Puis...
c'était pas ça que t'avais en tête, probablement.
C'était un travail de plongeur. Puis voilà, c'était parti. Après, c'est juste, je suis resté. J'ai continué. J'étais bien là-dedans. J'étais bien dans cet univers-là longtemps, plus nocturne, plus wild. L'univers de la restauration, là, c'est ça.
Tu te souviens-tu des premiers pas que tu cuisinais chez vous?
Oui, je me souviens dans le livre, dans un livre de cuisine du Cercle des fermières, j'avais fait un osso buco, parce qu'il y avait des jarrets de bœuf dans le congélateur, fait que j'avais géré, c'est ça, j'avais fait un osso buco, ça je me souviens, c'est un de mes premiers souvenirs de choses que j'ai faites, là. Ça avait très bien fonctionné. Sinon, j'étais tout le temps dans les jupes de ma grand-mère aussi, quand j'ai passé beaucoup de temps avec elle. Puis, beaucoup de temps à cuisiner, parce qu'elle cuisinait à chaque repas, puis c'était vraiment très... Ma mère aussi. Ma mère est une quand même assez fine gourmet. Puis elle aime beaucoup les mets italiens. Fait que j'ai eu beaucoup, beaucoup de... Nous autres, on mangeait italien là, à la maison. Puis chez ma grand-mère, c'était plus français classique.
OK.
Donc, plus bourgeois.
Est-ce que... ça a commencé très jeune. Tu es allé plongeur pour pouvoir t'acheter un scooter. Est-ce que tu as fait...
Je n'ai jamais acheté.
Est-ce que tu as fait des études en cuisine ou tu as fait ça de façon autodidacte?
J'ai pas fait d'études. J'ai fait ça de façon autodidacte, oui. Par contre, j'ai rencontré des gens qui m'ont montré des choses. Je peux dire oui, je suis autodidacte, mais... Mais Myriam a été, mettons, un maître pour moi, tu sais, aussi, là.
Myriam
étant la principale, franchement. Là.
Myriam étant ta conjointe.
Oui, aussi. Oui, okay. Aussi.
OK.
Quelqu'un d'encore peut-être plus passionné que moi?
Ça se peut-tu?
Différemment? Oui, peut-être. Peut-être.
OK. Parce que là, bon là, je ne veux pas faire un jeu de mots, mais la cuisine t'en mange littéralement, là. Ouais. Combien de livres de cuisine que tu as chez vous?
Ah, des milliers. Je ne les ai pas comptés, mais ça dépasse... ça doit être autour de 2000, certainement, là.
T'es-tu tout regardé?
Le salon est entièrement dédié à ça. C'est que des murs de livres, là.
Est-ce que t'es-tu tous regardé ou lu?
Oui. Pas tous lus, il y en a que j'ai regardé et que j'ai mis de côté. Tu sais, comme des fois, il y a des livres, soit on n'est pas prêt, soit il n'est peut-être pas aussi intéressant qu'on aurait souhaité, ou en tout cas, ça ne parle pas quand on le regarde ce fois-là. Mais la plupart, j'ai pas mal même tout lu, là. Puis j'ai relis dans certains cas comme ça, là, ici. Ça, je vais le relire jusqu'à la fin de mes jours, là. C'est sûr.
Les recettes de la Riviera d'Alain Ducasse.
Oui. Ça, c'est. Oui, c'est Alain Ducasse lorsque lui, il était chef. Donc, Alain Ducasse jeune, Alain Ducasse artisan, directement artisan. Okay. Et c'est un. En tout cas, moi, je trouve que c'est du pur génie, là, dans ce livre. Puis c'est un de mes livres favoris, ça, justement. On est dans la plus grande... l'inspiration, là.
Il y a les livres de cuisine, mais ta passion ne se limite pas aux livres. Il y a aussi, je pense que tu passes beaucoup de temps dans tes temps libres à regarder des vidéos de cuisine.
Oui. Bien, je regarde des vidéos sur YouTube de Japonais qui font griller des trucs ou qui montent une pâtisserie, là, peu importe, là. Ce que j'ai dans la tête, c'est un moment-là. Là. Ça, c'est toujours explorer plus loin, tu sais, tout le temps plus loin. C'est un puits sans fond, la cuisine. Tu vois pas la fin. Je vois pas la fin, en tout cas.
Qu'est-ce qui te fait tant triper? Qu'est-ce qui t'allume tant dans cuisiner, explorer, regarder?
Ben, la sensualité, la création. La création, c'est vraiment de découvrir et de faire quelque chose et de le découvrir en même temps qu'on le fait. C'est multisensoriel, là. Cuisiner, c'est l'odorat, c'est la vue, c'est l'ouïe, c'est le timing, c'est la présence et c'est le goût, bien sûr. Oui, oui.
Tes sources d'inspiration, bon, elles sont multiples avec 2000 livres de cuisine, mais à la base, là, qu'est-ce qui te fait vibrer, toi? C'est les légumes, les fruits, la viande, qu'est-ce qui te... C'est quoi ton moteur premier là-dedans?
Si tu parles des produits, il y en a tellement que j'aime. Les produits, c'est sûr que c'est comme un... C'est un lien avec la nature. C'est un des liens avec la nature, la cuisine, là, qu'on peut avoir, je pense. Donc, avec le biologique, animal ou végétal. Le végétal, c'est sûr que c'est comme une palette de couleurs incroyable. Puis l'animal, c'est plus comme une trame de fond, un rythme ou un... Ouais, c'est peut-être moins varié la viande que le végétal. Mais l'un ne peut pas aller sans l'autre dans la sensualité. Là, je pense qu'on a, on est beaucoup dans le végétarisme à notre époque, mais je pense qu'il faut peut-être inventer une nouvelle façon d'utiliser la viande pour en utiliser moins, mais pas en utiliser. Mais moi, je suis un défenseur du goût.
Ça veut dire quoi?
Que je pense pas qu'on peut changer le monde si c'est pas une proposition qui va nous séduire puis qui va nous faire plaisir.
Ça fait plusieurs fois que tu parles de plaisir. Bon, il y a toute la tendance de... Bon, végétariste, t'en as parlé. Il y a le sans gluten, le sans ci, le machin, le plus ci, le plus ça. Qu'est-ce que... Bon, Myriam et toi, vous avez un restaurant, le Rose Ross, on va y revenir. Comment vous faites pour rester... autant créatif et en même temps, vous ne pouvez pas mettre de côté toutes ces tendances-là?
Bien, j'aimerais ça être plus créatif encore. J'aimerais ça consacrer plus de temps à ça, mais j'ai un restaurant, comme tu as dit. Et puis, tu sais, dans la vie, j'étais comme je suis maintenant déjà. J'avais les mêmes objectifs. C'est juste que je me suis dit qu'avoir un restaurant, ça serait probablement une excellente idée pour réaliser tout ça, tu sais. Et puis, ce qui est vrai, puis ce qui n'est pas vrai en même temps. T'sais, c'est sûr qu'il y a beaucoup de mon temps qui est utilisé à faire du social, à répondre à des gens de toutes sortes de manières et à leur faire vivre quelque chose. Donc, servir la clientèle, recevoir les gens. C'est sûr que ça fait partie de la cuisine aussi. T'sais, comme là, aujourd'hui, tu vois, il y a le décor qui est en train d'être modifié, puis... C'est un feu roulant constamment, un restaurant, donc c'est très prenant. J'aimerais ça avoir plus de temps pour cuisiner, mais en même temps, je peux cuisiner plein d'affaires aussi, puis avoir accès à plein de produits et avoir un budget pour le faire, là, parce que le restaurant justifie tout ça, tu sais. Fait que c'est les deux. Ça va faire une période de ma vie. Je sais pas si je vais en avoir un tout le temps, un restaurant. On verra.
Ça fait combien de temps ici que le Rose Ross existe?
On est dans notre 7e année.
Tu travailles encore beaucoup?
Oui.
Combien d'heures par semaine?
Ben, mettons, on pourrait dire, tu sais, 12 heures par jour, 6 jours semaine.
Ça fait 72?
Ça fait 72 pour vrai?
Oui.
Oui, c'est donc 72.
Plus les dimanches comme aujourd'hui où tu es là.
Ouais, mais là, tu vois, comme je suis pas dans le même mood, je n'essaie pas d'être efficace et d'avoir un rendement. J'essaie juste de me divertir à faire à manger, ce qui est aussi mon loisir, en fait. Parce qu'il y a l'aspect professionnel, puis c'est mon loisir également, ou c'est ma vie.
C'est justement ma prochaine question. Tu sais, c'est comme avoir un restaurant, c'est une grosse responsabilité, c'est beaucoup d'heures de travail, mais c'est ton loisir. Alors, est-ce que quand tu travailles ou
t'as l'impression? C'est la nourriture, c'est faire à manger, c'est la cuisine, ce n'est pas avoir un restaurant.
Donc, avoir le restaurant est une des façons d'exprimer, de concrétiser ton loisir, de ce que tu aimes.
C'est un médium qui permet de le faire. Puis peut-être le médium le plus évident, mais probablement le médium le plus difficile en termes d'engagement. Mais en même temps, cet engagement-là, enfin, on pourrait en parler, mais pour moi, ça transforme ma vie d'avoir un restaurant, évidemment. Puis ça me conforte dans mon engagement envers la nourriture, envers la cuisine, de ce c'est ce que je veux faire. Je pense que c'est ce que j'ai à faire sur Terre, tout simplement. Peut-être que je me trompe, mais pour l'instant, c'est ça.
Tu parles d'engagement, puis du restaurant. Finalement, c'est l'engagement ultime. Parce que quand tu as un restaurant, tu peux pas ne pas avoir le goût de faire à manger. Quand tu es chez vous, ça se peut, mais pas dans un restaurant.
Bien, ce qu'il y a dans avoir un restaurant, il faut être un travaillant et un cuisinier acharné. Fait que c'est comme si tu veux avoir, il faut que tu sois être. Faut que tu sois le restaurant, faut que tu sois l'artisan derrière, puis faut que tu veilles à ça. Puis ça, c'est un grand engagement. Mais en même temps, cet engagement-là nourrit cette chose. C'est juste de ne pas se perdre puis pas s'épuiser là-dedans.
Tu y arrives?
Pas tout le temps. Ma vie n'est pas particulièrement équilibrée.
Une des choses à l'époque qui m'avait séduite la première fois que je suis venue au Rose-Ross, c'est encore vrai aujourd'hui, c'est les légumes. C'est ce que vous faites de rendre les légumes sexy. C'est quand même tout un défi que vous relevez.
Ben oui, mais c'est comme notre interprétation de l'époque. Tu sais, on veut plus de légumes, on veut avoir moins de viande, on veut ci, on veut ça, mais je pense que si on veut réussir à faire cette chose avec succès, va falloir que plein de gens comme moi s'impliquent dans cette chose-là, puis sinon ça va pas fonctionner, mais je pense que je peux être un acteur de changement dans la société et laisser quelque chose de positif sur Terre.
OK, donc c'est une forme d'activisme tranquille et proactif en même temps.
Oui. On peut juste convaincre par la séduction. C'est ça un peu le fond, tu sais, la conclusion pour moi de ça. Là.
Dans vos tendances, je sais que Myriam et toi, vous aimez explorer beaucoup de choses. Récemment, vous étiez dans une phase asiatique de transformation. Comment est-ce que vous... d'où vous viennent vos envies d'explorer?
Mon Dieu, c'est tellement présent que des fois, je me demande si j'ai la réponse à cette question-là, parce que c'est comme c'est une respiration, là. Moi, je me suis levé un matin, puis là, j'ai pris un café, j'ai lu un petit peu la presse, puis deux minutes après avoir tout fait ça, mettons une demi-heure après m'être levé, bien, j'ai commencé à regarder des vidéos de Paul Bocuse. Voilà, je sais pas, après ça... J'avais à faire le civet du chevreuil. Je savais que j'avais organisé ça. Puis Myriam a voulu aller faire des courses. Je sais pas où elle est partie, où, mais elle va revenir à un moment donné. Fait que c'est ça. C'est comme... C'est le même tous les jours. Fait que, ouais. Je me pose la question, mais pas trop.
Parlons japonais. Oui. Je pense que c'est une de vos passions du moment.
Oui, c'est une porte qui s'est ouverte pas récemment. Ça fait longtemps qu'on flirte avec, mais là, elle s'est ouverte bien grande. Puis on souhaite aller au Japon là, dans les prochaines années. Mais il y a ça qui est d'une part. Puis d'autre part, mais c'est un nouveau territoire, des nouvelles saveurs, une nouvelle approche, une nouvelle façon de faire la cuisine qui est extrêmement raffinée, qui est extrêmement... Moi, je suis vraiment impressionné par le Japon, là, entre autres. Mais avant ça, la Chine a toujours été une grande inspiration pour moi, la cuisine chinoise. Mais on reste quand même, en tout cas au Rose-Ross, on demande des cuisiniers français, je dirais, parce qu'on a l'approche de ne pas masquer le produit, de blabla. Là.
Qu'est-ce qui t'allume, qui vous allume dans la cuisine japonaise?
Le raffinement, l'umami. Ça, c'est des trucs un peu plus... parce que...
Peux-tu nous dire c'est quoi,
l'umami? L'umami, ça veut dire qu'il goûte bon. C'est un goût. Il y a cinq goûts, là. Il y a salé, sucré, acide, amer. Puis l'umami, le cinquième goût, lui, il est présent dans toute la bouche, d'une part. C'est un peu un espèce de goût salé, mais qui apparemment même serait détecté par l'estomac, tout ça, puis amène un effet de satiété, amène la cuisine japonaise, ben c'est le fondement de la cuisine japonaise, c'est l'umami. C'est de créer et de promouvoir l'umami dans toutes les préparations. Donc, puis c'est un peu déjà mon approche à travers toutes sortes de traditions. Puis c'est un peu l'éveil de notre époque aussi avec la cuisine nordique, le noma et tous ces gens qui intègrent vraiment la cuisine japonaise dans une cuisine qui est locale. En fait, on intègre des techniques d'autres cultures à notre climat, à notre agriculture, à notre terroir. Puis c'est un peu l'approche que Noma a, mais chacun le fait à sa façon. C'est un peu la mondialisation, mais culturelle du monde.
Vous allez loin dans vos explorations. Vous allez, parce que la dernière fois que j'étais assise ici, tu me racontais que vous faites votre propre miso, votre propre sauce soya. Pourquoi les faire plutôt que de les acheter?
Bien, je te dirais que, tu vois, le miso, on en a fait, on en fait encore. C'est quand même un processus qui est long. C'est très satisfaisant. Puis c'est aussi de comprendre... C'est un voyage de la conscience, hein, la cuisine.
Voyage de la conscience. Wow!
Ouais. C'est un voyage dans la biologie. C'est un voyage dans la trans... Tu sais, comme le miso, c'est... quelque chose qui meurt et qui devient une nouvelle forme de vie avec les ferments qui sont à l'intérieur d'elle. Donc, c'est fascinant, je trouve. C'est pour ça qu'on le fait. Maintenant, il y a des gens qui font peut-être mieux que nous. En tout cas, entre autres, on a trouvé un Japonais récemment qui faisait du miso maison et qui sont extraordinaires, leur miso. On va acheter leur miso parce qu'on a un gros... volume au restaurant, puis que ça serait compliqué de faire du miso tout le temps. Mais moi, je suis content d'en faire quand même. Question de comprendre ce qui m'entoure, de voyager de comprendre la nourriture dans tous ses raccoins.
Puis la sauce soya, elle, vous la faites-vous encore?
Bien, j'en ai encore. On le fait une fois. C'est un peu la même chose que le miso, là. C'est assez long. C'est pas exclu qu'on va pas en refaire, par contre, là, puis qu'on va pas réexplorer des choses. Aussitôt qu'on a du temps où on en fait plus, finalement.
Okay, fait que quand vous avez plus de temps libre, c'est pour faire plus de cuisine.
Ouais, c'est comme ça que ça finit souvent.
C'est quoi l'importance pour toi, pour vous, Rose Rose, des produits du terroir? Parce que toute cette influence internationale-là, mais en même temps, vous êtes très proche des producteurs, des éleveurs?
Oui, ben c'est ça. Quand on parlait du Japon, oui, une ouverture sur le monde au niveau culturel, au niveau des concepts culturels puis des techniques. Mais nous, on est la vallée du Saint-Laurent. C'est ça qu'on est. On est la vallée du Saint-Laurent. Donc, on essaie de refléter. Moi, j'essaie d'être en union avec le monde. Donc, ce qui m'entoure, c'est la vallée du Saint-Laurent. Puis j'ai le sentiment d'être moi-même la vallée du Saint-Laurent. Alors voilà, c'est ça qu'on sert, parce qu'on est là. Si on serait ailleurs, on servirait à autre chose.
Il y a une grande évolution qui s'est faite au Québec depuis, je ne sais pas, 10 ans, 15 ans, 20 ans, tu pourras me le dire mieux que moi, sur l'accessibilité, puis vraiment le choix, la qualité des produits qu'on a, non?
Oui, mais c'est... Oui, puis c'est un peu grâce à des gens comme le Toqué qui ont su créer des réseaux, qui ont soutenu des réseaux, qui ont permis à des gens de gagner leur vie, de vivre avec un juste prix de leur agriculture ou de leur élevage ou de leur cueillette. Puis c'est si on veut avoir ces choses-là, il faut les consommer, puis il faut créer des réseaux. En les consommant puis en les soutenant. Puis je pense qu'on a aussi un rôle à jouer là-dessus si on veut transformer le monde. C'est simplement la leçon de nos prédécesseurs. Puis c'est la meilleure façon d'avoir du bon stock. Puis quand tu as du bon stock, tu peux faire du bon manger.
c'est Myriam et toi qui avez le restaurant. Vous êtes dans une relation amoureuse. Ça doit parler beaucoup de cuisine chez vous.
Oui, oui, oui. Tout le temps. Beaucoup du restaurant, beaucoup de la cuisine. Ouais, tout le temps. En fait, on est là-dedans tout le temps. Puis Myriam, elle semble heureuse aussi là-dedans. Là. Donc, c'est ce qu'on vit présentement.
Quand on vous voit les deux ensemble, vous semblez indissociables l'un de l'autre. J'aurais de la misère à imaginer Sébastien sans Myriam et vice-versa. Il me semble que ta passion est tellement grande que... Bien,
j'ai vécu avant Myriam, mais je te dirais que depuis que j'étais avec Myriam, j'aurais moi aussi de la misère à me voir sans Myriam. Mais bon, ça... Je pense que c'est une rencontre... C'est comme il y a tellement de trucs qui sont enlignés que c'est quasiment impossible qu'une chose pareille arrive. Donc, c'est la chose la plus précieuse. Après ma propre vie, c'est la chose la plus précieuse, c'est d'être avec Myriam.
Ça doit être riche en Titi de partager sa vie avec quelqu'un qui vibre autant que soi sur quelque chose qui trippe.
C'est ça, c'est exceptionnel. C'est vraiment exceptionnel. Moi, j'ai pas vécu ça dans ma vie avant. Puis j'ai pas le sentiment que je... Ben c'est ça. C'est ça qui se passe maintenant. Puis j'en profite.
Ah, c'est beau. Ton art aussi, tu le fais. Tu as commencé à écrire il y a quelques années. Écrire et dessiner un livre de cuisine.
Oui. Puis je l'avais abandonné durant la crise de COVID. Là. Puis... Là, je flirte avec l'idée de recommencer, puis de faire de l'ordre, puis de repartir là-dessus. Là.
Okay. Qu'est-ce que tu souhaites transmettre, donner à travers ce livre-là?
Bien, je pense que la cuisine en tant que telle, c'est comme le reste, une beauté, ça fait partie de la beauté du monde, puis c'est quelque chose qu'on doit promouvoir. Comme les autres formes d'art, comme les autres formes de... C'est de la culture.
Mais le petit plus, le twist que Sébastien amène là-dedans, c'est quoi?
J'espère un peu de poésie.
Quand tu penses à des recettes, quand tu penses à cuisiner, est-ce que tu fais ça dans le silence, de la musique? C'est quoi ton processus créatif à toi?
Moi, c'est souvent... Il y a différentes façons, mais c'est... plus souvent chez moi que ici. Ici, c'est l'action. C'est vraiment... Puis chez nous, c'est le côté peut-être plus passif, mais je vais commencer un peu à regarder des livres, beaucoup à travers les livres. Les livres vont me démarrer un focus créatif. Puis après ça, ben tu dois les produits te dictent aussi la saison, te dictent la température, te dictent ce que tu dois cuisiner là, jusqu'à un certain point là. Tu sais, les besoins humains varient, les envies varient durant l'année, comme tout le monde, chacun sait. Mais ouais, c'est ça. Mais je suis le cycle de la terre. Puis si c'est le temps des asperges, bien, on fait des asperges. Puis si c'est le temps qu'il y a des fraises, bien, on mange des fraises. Puis on mange pas de tomates quand il n'y en a pas. Puis on... voilà.
Puis quand c'est l'hiver?
Quand c'est l'hiver, bien, t'es sur des légumes racines. T'es sur un peu plus de viande, peut-être, que dans les autres saisons. T'es dans des choses chaudes, sucrées, rassurantes, comme des racines, comme un repli sur soi, un truc qui... des trucs qui poussent dans la terre puis qui se conservent, là, les légumes de le chou, le carotte, navet, beaucoup. C'est ce qu'on mange aussi au Rose Ross, mais ouais, voilà.
Bien apprêté. J'ai une question difficile. Moi, j'ai pas un super système digestif puis je peux pas manger n'importe quoi, n'importe quelle quantité. Puis pourtant, chaque fois que je viens ici, tout passe merveilleusement bien. Ça bloque jamais nulle part. C'est quoi le secret que vous mettez dans votre cuisine pour que ce soit aussi digeste?
Bien, je sais pas quoi te répondre à ça. Pas qu'on fait pas attention à ça. Pour moi, tu sais, le mouvement qui a été engagé par la Nouvelle Cuisine dans les années 70 en France, qui est vraiment la plus grande influence pour moi puis Myriam, notre génération, là, ben, c'est d'alléger la cuisine. Ils l'ont fait peut-être d'une façon amaigrie. Maintenant, on a des nouvelles connaissances, puis on fait juste, dans le fond, appliquer ces connaissances-là. T'sais, on essaie de faire des choses qui sont classiques, des choses qui sont connues, mais de les réinventer en les allégeant, en fait, en ayant en tête que le repas soit digeste, évidemment, pour tout le monde. Mais c'est pas plus d'efforts que ça, là.
Comme passionnée de la cuisine, ta grande passion, c'est de découvrir, c'est d'essayer, c'est de voir tout ça. Comme restaurateur, c'est quoi qui te fait le plus plaisir, qui te nourrit le plus?
Hey, boy. Ben, c'est un feu roulant, un restaurant. Hein? C'est les gens dans un restaurant. C'est toutes les gens qui viennent, Je veux dire, il se passait rien, puis il se passe plein de choses juste parce qu'il y a un lieu où tout le monde peut venir, tu sais. C'est ça, un restaurant, là. Puis j'imagine que tout ça transforme... Pas j'imagine, tout ça transforme ce qu'on cuisine également, tu sais. C'est comme pas une pression, mais il se passe quelque chose dans un restaurant, puis tu rencontres plein de monde. Toi, je t'ai rencontré ici, puis ça change une vie, tu sais. C'est un lieu de... C'est un agora.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Maison publique, comme disent les Anglais.
Bon, le premier balado que j'avais fait lorsque j'ai commencé cette aventure-là, c'était sur le Rose Ross, puis j'avais appelé ça le goût de l'amour. Rose Ross, le goût de l'amour. J'ai l'impression que c'est beaucoup ça. De par votre amour pour la cuisine, de par votre amour entre Myriam et toi, donc il y a quand même beaucoup d'amour.
Ben, Myriam, elle me dit que je suis en amour avec l'amour, puis elle a bien raison. J'aime ça que ça soit de même, puis on s'arrange le plus possible que ça soit de même dans toutes les couches de l'affaire. C'est avec le côté que les gens qui viennent connaissent moins, la cuisine à l'arrière, les employés, tout ça, mais même ça, on essaie de tout faire dans cette optique-là. En fait, ouais, c'est ça, on veut que le monde soit d'une certaine façon, ben nous, on est dans une situation de pouvoir où on peut essayer d'influencer les choses pour que ce soit un monde d'amour. On fait de notre mieux pour ça. Mais ça, c'est comme un devoir qui va au-delà du restaurant, là. C'est un devoir humain.
C'est beau. Souvent, moi, quand je vais au Rose Ross, en fait, presque tout le temps, je suis assise au bar, puis je vois Myriam et l'équipe en train de s'affairer, de cuisiner pendant que je placote avec toi. Et une des choses que je remarque à chaque fois, c'est à quel point elle est zen, votre cuisine. On est loin de Gordon Ramsay, là.
Ben oui. C'est toujours surprenant de voir que dans des grandes cuisines, il y a beaucoup de tensions, il y a beaucoup de cris ou même carrément de violence parfois. Puis, ben je sais pas, nous, on n'a pas aimé ça, notre expérience comme travailleurs. C'est sûr qu'on a appris bien des choses dans ces cuisines-là, mais encore une fois, si tu veux que le monde change, c'est toi qu'il faut qu'il change. Mm-hmm. Faut que tu essaies de faire de quoi, là.
Myriam, il est beaucoup pour là-dedans aussi, parce qu'elle, quand elle cuisine, elle a l'air en méditation. Même si elle est très occupée puis dans l'action.
Ben, Myriam a beaucoup de talents de toutes sortes, mais son plus grand don, c'est certainement son attention sans faille à chaque instant. Puis c'est comme ça avec elle. Il n'y a rien qui y échappe. Et c'est pour elle peut-être une malédiction. Elle pourrait t'en parler. Mais c'est la bénédiction de tous les clients, finalement, ou de tous les gens qui viennent ici, parce que tout est toujours sur la coche.
Oui, vraiment sur la coche.
C'est comme un robot. Il n'y a pas d'erreur. Il y a une répétition, il y a une attention. Il n'y a pas de... Même la fatigue n'arrive pas à défaire cette chose chez elle. Elle est vraiment... C'est son plus grand talent. Et c'est sûrement un plus grand talent pour un cuisinier. Être attentif. Avoir ce pouvoir-là d'être supra-attentif. Je pense que c'est ça qui fait la différence.
Oui, pas échapper la salière.
Ben, salière, mais écoute, ça va à tous les niveaux, là, avec Myriam, il n'y a pas juste ça, là. Mais oui, souvent, on va reprocher à des restaurants, dans les critiques, là, trop salé, pas assez salé, tout ça. Bon, quand tu as un restaurant, tu trouves ça un petit peu ennuyant, parce que tu sais qu'il y a une certaine subjectivité là-dedans, là. Mm-hmm. Mais ce qu'on nous a appris, je pense, c'est si tu ne goûtes pas le sel, c'est qu'il est correct. Si tu le goûtes, c'est parce qu'il y en a trop, là.
Vous portez aussi une grande attention, une attention particulière à la beauté. Tout est beau ici.
Bien, c'est un peu comme cultiver l'amour. Cultiver la beauté, c'est un peu dans la même ordre d'idée. C'est cultiver... Bien, c'est d'être positif. C'est de... Un restaurant, les gens vont là pour se détendre, pour se sentir bien, pour être dans un monde... échapper peut-être à un autre monde ou à des... Ouais, un monde de séduction, un monde d'amour, un monde de beauté. C'est souhaitable de toute façon, fait que travaillons donc à le faire de même.
Dans mes coachings santé, je parle beaucoup de nourriture avec mes clients. Bon, on s'enligne. Elle s'enligne sur tel ou tel type de nourriture. Et la portion qu'on oublie souvent et que j'aime leur rappeler et me rappeler à moi aussi, c'est le plaisir de manger, le plaisir de manger ensemble, puis le plaisir de manger. Ça, c'est irremplaçable.
Oui, puis au 21e siècle, c'est un luxe parce que ça veut dire prendre son temps. Prendre le temps de se faire à manger, prendre le temps de s'octroyer ce moment. Tu sais, comme ce que je te montrais quand je suis arrivé, moi, je m'octroie ce moment de bonheur, de sens, de sensualité, de contact avec le monde. Mais là, je le fais d'une façon détendue, puisque c'est dimanche. Puis c'est ce que peut-être qu'il faut promouvoir le plus, je pense, dans un cadre de santé, c'est de simplement prendre le temps.
Tout à fait d'accord avec toi. Tout est bon au Rose Ross. Tes plats coup de cœur à toi, c'est quoi?
Qu'on a fait
ou que vous faites. Mettons vos classiques et vos incontournables. Vous avez réussi à me faire aimer les choux de Bruxelles. C'est le seul légume que j'aime pas, puis vous avez réussi à me le faire aimer. Donc, c'est quand même un tour de force.
Oui. Mais le chou de Bruxelles, c'est très bon, mais aussi, c'est ça. Ça, c'est justement un plat où promouvoir l'umami qu'on parlait tantôt. Bien, c'est ce qu'on a fait dans ce plat-là. On a fait attention aux textures. On a vraiment mis bien de l'umami dedans. Après, écoute, si c'est bon, on a envie d'en manger. Puis après ça, c'est santé, tant mieux. Mais c'est ça l'idée, justement, de ce voyage-là. C'est les cadeaux de tout ça, c'est de pouvoir faire des plats comme ça, de découvrir des plats comme le chou de Bruxelles. Mais il y a d'autres choses, il y a des choses plus gourmandes comme le gros chou, pour parler dans en termes de chou, qui est notre dessert incontournable, crème. Le gros chou avec crème pralinée, crème glacée, dessus caramel à la fleur de sel, puis la croustade au goglu pour la petite touche nostalgique. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? Souvent les plats de poisson sont très réussis également. Ça change tellement souvent que je t'avoue que moi, je suis pas dans le moment présent en cuisine. Je suis dans ce que je vais faire demain, tu sais, ou ce que je vais faire plus tard. Puis pour moi, ce que vous mangez, c'est le passé, tu sais. C'est ce qui est... Mais ça, c'est la différence peut-être entre moi et Myriam. Moi, comme tu sais, je suis en avant. Fait que quand le plat est lancé en production, bien, je suis plus là. Je suis là avant. Puis, fait que c'est comme un reflet du passé. On a tellement fait de bons plats ici, le calmar. Myriam, à un moment donné, elle faisait des pétanques poêlées avec une vinaigrette au bacon, soya, yuzu, sur une purée de chou-fleur. C'est terrible, ça.
Le calmar est vraiment « to die for », comme disent les Anglais.
Puis, mon Dieu, qu'est-ce qu'on a fait ici? Présentement, le braisé de bœuf avec une sauce vin rouge, puis des cèpes lacto-fermenté, ça aussi, c'est une bombe umami. C'est avec une purée de pommes de terre, comme la faisait Robuchon, avec beaucoup de beurre, passée à travers un tamis, soyeuse à souhait. C'est que des bonheurs, là.
Je confirme, c'est ce que j'ai pris la dernière fois.
Ouais.
OK.
Ouais. Écoute, je ne saurais pas quoi dire. Il y en a tellement eu des bons plats que...
Tu as parlé du chou à la crème, qui est vraiment extraordinaire aussi. Est-ce que les desserts occupent une grande place dans ton exploration de la cuisine et chez Rose Ross?
Bien, Myriam, plus que moi, a la dent sucrée. Puis, elle est aussi pâtissière. Donc, les desserts font partie de... Vraiment, c'est très important au Rose Ross, puis c'est très important pour nous d'être à la hauteur du début jusqu'à la fin. Puis surtout, à la fin, on veut que les gens qui viennent chez nous se souviennent de nous, puis marquer leur esprit avant qu'ils partent. De laisser une impression, c'est important. Fait que le dessert, c'est le lieu où cette chose-là peut se passer, là.
On sent beaucoup de générosité de votre part quand on vient ici. C'est une expérience sensorielle hors du commun, mais on sent que vous en donnez beaucoup.
Bien, la volonté du départ, Rose Ross, c'est le nom de l'arrière-grand-mère de Myriam. Puis c'était comme pour exprimer qu'on voulait faire une cuisine de grand-mère, une cuisine d'amour, une cuisine de femme. Une cuisine nourricière, une cuisine accueillante, une cuisine réconfortante. C'est pour ça que c'est comme ça qu'on habille la cuisine qu'on fait. C'est l'intention qu'elle a, en tout cas. Tant mieux si vous le sentez.
Oh oui. Tu as dit que ce qu'on mange présentement en salle, ça pour toi, c'est du passé. Qu'est-ce qui s'en vient pour nous? C'est quoi tes explorations présentement?
Là, je suis dans un retour au classicisme français, parce qu'on s'en va en France à Lyon, puis on va vers la base, les mères lyonnaises, qui est un peu la prémisse du Rose Ross dans notre conscience de cuisinier, dans notre rêve de cuisine, je ne sais pas comment...
Votre influence première.
Notre influence première. Les gens... Paul Bocuse en est une, mais tous les chefs français qui ont pris part à la nouvelle cuisine des années 70, c'est vraiment ça qui nous a beaucoup influencés. Mais il y a aussi aux États-Unis, chez Panis, qui est comme un autre mouvement, mais qui fait des trucs bio cuisine du marché également. Fait que c'est d'être le plus en phase avec la nature aussi. Je pense que c'est fait partie d'une cuisine actuelle, peut-être. Ou en tout cas, sinon, ça devrait.
J'essaie d'avoir un scoop. Ça va être quoi la prochaine assiette qu'on va manger?
mon Dieu! On a un gâteau au citron qui va être absolument merveilleux, qui s'en vient. Donc, avec plusieurs éléments, là, une costade au citron à l'intérieur, un petit gâteau très fin, citronné, punché avec un sirop de citron. Dessus, il va y avoir une meringue brûlée. On a fait plusieurs essais, puis c'est très prometteur. Ça va être vraiment, vraiment très bon. Présentement, il y a la truite qui est farcie dans un chou, que moi, je trouve ça très, très bien. Ça, c'est un peu là où on est présentement, justement dans les vieux français. Le gibier, on va faire des tourtières à Noël. On repart une usine à tourtières pour du take-out.
Tout est fait ici.
Bien sûrement, c'est des choses qui sont de Lyon, des traditions lyonnaises. C'est vraiment... Ça va être ça, là, les prochains plats. C'est certain. Un quenelle de morue, peut-être, avec une sauce au homard crémée et avec de l'estragon gratiné au gruyère dans un four. Des plats hivernaux, en tout cas, là, mais d'influence lyonnaise.
Parce que tu dis, vous en allez, vous partez bientôt pour la France, pour Lyon. Fait que même quand vous êtes en congé, c'est pour explorer la cuisine.
Oui. Oui. On a songé à aller dans un tout inclus, mais non.
OK.
Non. Ben c'est ça le plaisir de la vie, explorer, non?
Tout à fait d'accord. après toutes ces années, ça fait longtemps que tu t'intéresses à la cuisine, que tu es restaurateur. Avant d'avoir Rose Ross, tu travaillais en cuisine, Myriam aussi. Est-ce que on peut devenir blasé de goûter ou de plus en plus exigeant, de plus en plus difficile à satisfaire? Comment tu vois ça?
Ça peut devenir une malédiction. C'est plus difficile pour nous de sortir parce qu'on travaille un peu quand on sort dans des restaurants. Mais fait que des fois, ça peut faire ombrage au plaisir. Mon Dieu. On peut venir blasé, on peut venir fatigué, pas blasé. Moi, ce que je ressens parfois, c'est vraiment... J'ai jamais un manque de motivation. C'est plus... Je peux avoir un coup de fatigue parce que c'est très, très exigeant comme rythme.
Mm-hmm. Est-ce que tes papilles continuent à se développer, se raffiner?
Oui. Ben, moi, je trouve que les goûts... Je vois mes goûts changer constamment. Je vois vraiment mes goûts changer... Je sais pas, là, j'ai 51 ans, puis je me souviens que mon père aimait beaucoup la moutarde très forte, la quine, la moutarde anglaise, je le trouvais complètement... C'était ben trop pour moi, ça montait au nez, c'était fort. Puis aujourd'hui, tu vois la moutarde, je trouve ça merveilleusement bon. Puis j'en mange à la cuillère, aussitôt que je suis devant un pot. Fait que les goûts changent tout le temps... J'aimais pas le poisson quand j'étais enfant, maintenant j'aime ça. Puis des fois, on fait un trip, mettons, sur la carotte. On redécouvre la carotte, on redécouvre. C'est aussi les saisons, c'est ça que ça permet là, de renouveler son désir.
Vous parlez des fois, quand vous allez dans un restaurant, vous avez l'impression de travailler. Je suis curieuse de savoir, du monde comme vous, quand ça va dans un restaurant, ça va où? Sans faire de publicité pour personne, là?
Bien, il y a deux sortes de sorties au restaurant, bien, un peu comme tout le monde. Si on va chez un collègue qui fait un style de restauration plus proche du nôtre, un restaurateur indépendant, un chef, là, bien ça, c'est sûr que c'est un petit peu plus du travail. Puis quand on veut vraiment... Moi, quand je veux vraiment me détendre, c'est de la bouffe ethnique, de toutes sortes. Donc ça, c'est plus... C'est plus libre, plus facile à juste être aimé. Donc, tu sais, un bon Vietnamien, cuisine chinoise tout le temps, à chaque fois, ou les Japonais, c'est toujours c'est plus de plaisir pour nous. On préfère les trucs ethniques.
Vous aimez beaucoup la cuisine italienne aussi.
Oui. Ben oui, parce que c'est essentiellement, elle aussi, une cuisine de produits. Puis c'est une belle utilisation, justement, des végétaux. Là. On parle de... La cuisine italienne est beaucoup plus végétale que la cuisine française. Là. Donc, elle est plus moderne. Elle va influencer la cuisine moderne plus fortement, je pense.
Avant-dernière question, en fait, avant de te laisser aller, on en est où au Québec par rapport à la scène internationale au niveau de la cuisine? Montréal a quand même une bonne réputation. Il y a des bonnes tables à Montréal.
Oui, il y a des très bonnes tables à Montréal. Les gens sont quand même assez ouverts. Aussi, la clientèle, c'est une clientèle qui permet une certaine exploration. Il y a peu d'argent à Montréal, donc ça, c'est le downside. Donc, il faut vraiment... Mais c'est le downside, puis en même temps, c'est un défi, puis c'est correct de devoir travailler fort pour créer de la valeur dans une assiette. Moi, je suis d'accord avec ça. Mais fait que c'est les deux pendants, je trouve, à Montréal. Une clientèle qui explore et qui est ouverte, mais il y a peu d'argent, donc il faut y aller, il faut être très astucieux. Dans une cuisine, pas que ça coûte trop cher, j'entends.
Dernière question. Pour monsieur, madame, tout le monde, là, on ne pourra jamais cuisiner comme vous autres. Ce n'est pas ça le but. Chacun son rôle, chacun son métier. Mais pour les gens qui ne savent pas par où commencer pour cuisiner, là, mettons que tu aurais deux ou trois trucs de base à te donner pour avoir envie de se faire à manger et que ce soit bon. Par quoi on commence? Par où?
Je pense qu'il y a un service assez bien garni avec tous les Ricardo et autres de ce monde. qui nous promettent des choses simples et qui souvent fonctionnent très bien. Nous-mêmes, tu sais, souvent les gens sont surpris, on est des chefs, tout ça, mais c'est arrivé que j'ai fait un gâteau tiré d'une recette de Ricardo qui était, ma foi, très bien et qui servait... faut que ça soit simple, la cuisine. Peut-être un œuf au plat, ça peut être suffisant pour avoir une belle expérience gastronomique avec un petit échalote ciselé dessus. C'est pas compliqué, bien manger, là. Ça peut être juste un œuf avec, un petit ciboulette dessus. Ça peut être une omelette avec un champignon sauté. Ça prend 5 minutes à faire. Des pâtes avec une sauce tomate, oignon, ail, c'est tout, là. Puis ça va être excellent, là.
Donc, on est mieux de garder ça simple et de se faire à manger soi-même que de viser des trucs plus compliqués et qu'on ne fera pas finalement.
Bien, c'est du reste ce qu'on fait nous-mêmes, tu sais. Moi, j'essaie toujours de simplifier la situation.
Hey, merci beaucoup, Sébastien. C'est fascinant. Puis, bien, c'est le fun. Continue à te passionner comme ça puis à nous faire profiter.
Bien, merci. Bien, oui, je vais continuer. J'ai pas même un choix.
J'espère que vous avez apprécié cette rencontre et que ces propos vous ont fait du bien. Si c'est le cas, vous pouvez faire suivre à vos amis ou à vos proches. Et si vous avez des commentaires ou des suggestions d'invités, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Pour ne rien manquer de ce que je mets en ligne, vous pouvez vous abonner à mon blog eugeniefrancoeur.com ou encore vous inscrire sur Spotify, Apple Music ou votre plateforme préférée. Et si vous sentez que vous avez besoin d'une coach santé pour optimiser votre vitalité et votre bien-être et croquer encore plus dans votre vie, vous pouvez me contacter au 514-913-1947 ou encore à eugenie.francoeur@gmail.com. Je vous remercie et à bientôt!